Bienvenue sur cette chaîne Eutimia, je suis Stéphane Faure et je vous accueille aujourd'hui pour un podcast qui va porter sur la manière dont la joie peut nous permettre d'aller au-delà de nos peurs. En effet, on voit à notre époque que la peur a une très grande place, elle conditionne énormément beaucoup de nos attitudes et il peut être dans un premier temps assez difficile d'imaginer que la joie puisse être un antidote à la peur. On aurait plutôt tendance à penser qu'une fois qu'on n'aura plus peur, on sera joyeux. Mais en fait, les traditions méditatives autour de la compassion et de l'amour bienveillant nous disent aussi qu'en cultivant la joie, la peur elle-même va diminuer. On va voir comment c'est possible et si on va arriver dans un monde de rêves ou au contraire rester les pieds bien sur terre mais simplement être moins phagocyté par la voix de la peur. Je vous souhaite une très belle écoute et à très bientôt. Lors de la retraite silencieuse que nous allons organiser au Moulin de Chave en avril 2024, le thème principal va être le lien qui existe entre la peur et la joie, comment la joie peut surpasser les peurs. Et à cette occasion, il serait intéressant de comprendre déjà quel contexte nous permet de faire le lien entre les deux. Qu'est-ce qu'on entend par la notion de peur au niveau de la méditation, de pleine conscience ? Je pense qu'il est facile de reprendre ce qui est amené dans le programme MBCL et tous les programmes basés sur la compassion là, qui existent actuellement, de distinguer le système de menace et le système de pulsion et le système d'apaisement. Le système de menace en particulier, comme son nom l'indique, est un sentiment diffus qui nous donne l'impression, à tort ou à raison, de se sentir menacé dans notre intégrité. Ça peut être par des situations extérieures, comme des personnes, comme des situations environnementales, par exemple, qui actuellement peuvent susciter une certaine forme d'angoisse et sur lesquelles on n'a pas le contrôle et qui peuvent potentiellement altérer notre intégrité physique, morale ou sociale. Ensuite, il va y avoir aussi une forme de menace intérieure concernant, par exemple, la santé. On peut se sentir plus ou moins fragile au niveau de sa santé et avoir une forme d'angoisse diffuse sur le fait qu'on puisse potentiellement retomber malade ou tomber malade. Ça peut être une maladie physique, ça peut être aussi une maladie mentale. Et puis enfin, il y a, à un niveau encore plus profond, nos propres pensées qui peuvent susciter en nous des sentiments de menace. On se sent menacé par nos propres inclinations, nos propres émotions, nos propres angoisses. On est angoissé d'être angoissé, anxieux d'être anxieux. Et certaines pensées réminiscentes nous donnent aussi beaucoup de fil à retordre pour nous sentir en confiance. Avec ça, on peut aussi rajouter le fait que notre être peut saisir des événements du passé ou des événements du futur, même s'ils n'ont aucune existence tangible dans le présent. Leur existence dans notre mental, dans notre esprit, les rend extrêmement menaçants à chaque fois qu'ils se produisent. Et toutes ces peurs, évidemment, se construisent les unes sur les autres. Si on a un mental qui est enclin à se sentir menacé, il va avoir tendance à observer dans le monde tout ce qui peut confirmer ce qui peut le menacer. J'avais à l'époque diffusé un programme sur le leadership au moment des attentats du Bataclan. Et au fur et à mesure des semaines, les participants décrivaient le fait que plus ils regardaient les chaînes en continu, plus à chaque fois qu'ils sortaient dans la rue, ils se sentaient menacés. Comme s'il y avait une sorte d'effet de boucle qui renforçait le sentiment de menace, à la fois à travers les pensées, mais également à travers les perceptions dans le quotidien. Et c'est de ça dont on voudrait sortir et avoir des moyens pour pouvoir avoir un peu plus de flexibilité, pour ne pas s'enfermer dans un processus où la peur dirige nos actes et plus ou moins consciemment, en tout cas, dirige même notre vie. Et la joie peut être un moyen très puissant pour pouvoir contrecarrer tout ça. Donc ici, il ne s'agit pas d'éteindre toute forme de peur. La peur peut avoir son efficience. Il s'agit juste de la ramener à sa juste proportion et qu'elle ne soit pas omniprésente et le seul facteur de décision dans nos vies. Comme ça peut avoir tendance à le faire à notre époque où on voit que la peur est particulièrement prégnante dans les informations, dans notre mode de vie, qu'il y a une forme d'anxiété généralisée. notamment du fait qu'on s'aperçoive qu'on contrôle de moins en moins les choses. La joie ici dont il s'agit est une joie qui est une expérience durable de plénitude. On la distingue généralement des joies euphoriques ou qui sont provisoires. Et dans la Grèce antique, on appelait ça euthymia. C'est d'ailleurs ce clin d'œil que j'ai gardé. C'est cette quiétude, ce sentiment de plénitude où le souffle intérieur se mélange avec cette présence du cœur, euthymia. Mais ici, cette expérience de plénitude, elle a aussi une autre fonction. Elle n'est pas juste pour nous mettre dans un état d'hédonisme et créer une sorte d'état hors sol. Cet état de plénitude, il est comme quelque chose qui va être en arrière-fond des situations. C'est-à-dire que on va pouvoir vivre des choses difficiles, mais c'est comme si progressivement elles s'équilibraient d'elles-mêmes. En tout cas, c'est la manière dont, que ce soit les maîtres de méditation, des traditions indiennes, comme le bouddhisme, ou certains pratiquants de yogis de Advaita Vedanta décrivent cette expérience, où on peut voir aussi d'autres mystiques, comme une forme d'arrière-plan qui vient en quelque sorte rééquilibrer, quelle que soit l'expérience qu'on puisse vivre à un niveau relatif, comme la perte de proches, des problèmes de santé, etc. C'est comme si cet état de joie et de plénitude était un état par défaut. Et cet aspect de joie a aussi un autre aspect, c'est qu'il nourrit notre sentiment de cohérence, de globalité. En effet, dans ces pratiques autour de la joie, ce sentiment de plénitude fait le lien, en quelque sorte, reconnecte toutes les parties de notre être, celles qui sont ébréchées, celles qui vont bien, comme si, en quelque sorte, elles nous permettaient de former un tout, en quelque sorte, et de préserver une forme de cohérence. Alors qu'au contraire, des fois, on voit bien que c'est la voie de la peur qui nous gouverne. Eh bien, il y a un sentiment de morcellement, d'être fractionné en plein de parties de nous-mêmes où on se retrouve difficilement au milieu de tout ça. Un sentiment d'être un peu ébréché, mais dans le sens, pas dans le sens de fragilité, dans le sens d'être comme un puzzle qui est cassé. Et ça, c'est un point qui va être aussi très important, c'est à voir justement que cette expérience de plénitude, elle permet de retrouver ce sentiment de cohérence et de faire la paix entre les différentes parties de nous-mêmes. Ça, c'est un point aussi qui va être très satisfaisant en termes de vécu intérieur. Et l'autre point qui va aussi, à mon sens, être un point important pour contrebalancer la peur, c'est le fait qu'il y a une connexion avec les autres. C'est comme s'il y avait plus de confiance dans le fait de se sentir relié à autrui. Et cette connexion, cette absence de séparation qu'on va ressentir avec le vivant, va être aussi un des facteurs qui va éteindre les peurs, parce que généralement, la peur se nourrit de ce sentiment de séparation. Il y a moi et les autres, il y a ce sentiment de différence, de défiance, qui va s'auto-alimenter de lui-même et se renforcer. Plus je me sens différent, plus je me sens menacé par l'autre, eh bien, il n'y a aucune raison que ça cesse, ça va se renforcer. Donc, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment la pratique de la joie elle-même va nous aider à atteindre à un degré ou à un autre ces différents bienfaits qui viennent contrebalancer la peur. Le premier point que je trouve vraiment important, c'est la capacité de pouvoir nourrir notre capacité d'acceptation. En effet, ce sentiment de cohérence, ce sentiment de globalité, cette expérience de plénitude, la joie va venir la nourrir. La joie va venir nourrir ce sentiment de cette expérience de plénitude. Et cette expérience de plénitude, elle va nous aider à renforcer notre capacité d'acceptation et de confiance. Notamment dans le programme MBSR que certains d'entre vous, vous avez pu suivre. On parle souvent d'acceptation. On parle aussi d'acceptation dans le programme MBCT. C'est un mot qui est vraiment important et qui désigne la capacité de pouvoir reconnaître l'expérience, notamment désagréable, telle qu'elle est, à l'instant où elle s'élève, dans ses différentes formes de manifestation, sensations, émotions et pensées. On n'est plus en lien forcément avec une expérience désagréable, mais on est en lien avec la manière dont elle se produit à l'instant présent. Les sensations, les émotions, les pensées, par vagues comme ça, se succèdent et s'apaisent d'elles-mêmes. Et le fait de pouvoir pratiquer la joie va venir renforcer notre capacité de pouvoir accepter les expériences telles qu'elles sont. C'est comme si ça nourrissait en quelque sorte une base sur laquelle on pouvait s'appuyer. Qu'est-ce qui va être le moyen de faire ce vase communicant entre l'expérience de la joie, de plénitude et notre capacité d'acceptation? En premier lieu, il va y avoir la connexion au sens. Plus on va habiter nos sens, plus on va être capable de percevoir le monde à travers toutes nos perceptions sensorielles et s'y entraîner moment après moment, plus il va y avoir quelque chose de nourrissant dans notre être. Et cet aspect nourrissant va venir renforcer notre capacité d'acceptation via cette expérience de plénitude. On va se retrouver un peu comme renforcé. Dans l'Inde antique, on retrouve ça des fois dans ce qu'on appelle, qui est un peu connu maintenant en Occident, l'Ayurveda, mais pas que en phénoménologie bouddhiste. On parle souvent du fait que pour qu'une personne puisse se nourrir, il faut qu'elle conduise l'aliment dans sa bouche. Mais de la même façon, pour qu'elle se nourrisse visuellement, il faut qu'il y ait un contact qui se passe entre l'objet visuel et l'œil et la conscience visuelle. Il faut qu'il y ait une coordination entre la forme, l'organe des sens et la conscience qui perçoit. Et quand il y a cette coordination, à ce moment-là, on peut se nourrir de tous les sens. Et qu'est-ce qu'on nourrit? On nourrit ce sentiment de cohésion, ce sentiment de stabilité. Et ce sentiment de stabilité, il va être la cause qui va renforcer notre capacité de pouvoir accepter. Et cette capacité d'accepter va nous rendre plus forts pour pouvoir justement faire face à nos peurs. Donc il ne s'agit pas ici de développer une joie qui gommerait les peurs, mais simplement qui va renforcer, dans un premier temps en tout cas, notre capacité d'acceptation à travers cette force qu'on va avoir de se reconnecter au sens. Et c'est quelque chose avec lequel il faut s'entraîner pour deux raisons. La première raison pour laquelle il faut s'entraîner à la reconnexion aux perceptions sensorielles est due à notre mode de vie. En étant de plus en plus associé à des modes de vie sédentaires, on a tendance à atrophier nos sens. Il y a encore quelques milliers d'années, quand on était chasseur-cueilleur, nos sens étaient fortement stimulés. Et du coup, les interconnexions entre les sens étaient elles eux aussi fortement, fortement stimulées. Donc il y a eu une perte qui fait que cette sédentarisation extrême dans laquelle on est maintenant a tendance à atrophier nos sens. Et du coup, il n'y a plus que le mental qui devient omniprésent. Et ce mental, des fois, va être plus, comme il a une tendance à l'instabilité, il va avoir tendance à être plus focalisé sur ce qui le menace. Donc tout ça est assez bien décrit maintenant, notamment à travers les processus neurophysiologiques. Et à l'inverse, quand on va être plus dans nos perceptions sensorielles, à ce moment-là, on va accroître notre capacité de ressourcement et de pouvoir donner quelque chose, une alternative à ce sentiment de menace qui peut se nourrir de l'omniprésence du mental. L'autre point aussi qui est important de considérer, c'est que quand on est sous l'emprise du système de menace, l'ouverture sensorielle est très difficile à mettre en œuvre. Ça nous est tous arrivé de traverser un peu une période difficile. Et lors de ces périodes, on est très peu sensible aux oiseaux dans les arbres, etc. Imaginez-vous, si par exemple en ce moment nous sommes en mars 2024, le printemps est plutôt en train de ressurgir, si vous sortez d'une réunion difficile de votre travail ou une réunion familiale pénible, vous serez très peu enclin à percevoir les petits bourgeons qui sont en train de pousser, l'herbe qui devient plus verte, etc. Au contraire, notre attention va être focalisée sur la peur, la colère et ce sentiment diffus de menace. Il nous faut avoir un entraînement à l'habitude de pouvoir réhabiliter nos sens quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, pouvoir être en lien avec le vent sur la peau, quelle que soit la situation, être en lien avec les couleurs autour de nous, quelle que soit la situation, être sensible à la peau sur au vent sur la peau. Et le fait de pouvoir s'entraîner comme ça, avec une forme de régularité, va éviter au mental de focaliser son attention sur le sentiment de menace, parce qu'à partir du moment où c'est le sentiment de menace qui est l'objet de notre attention, à ce moment-là, comme on le disait au début de notre présentation, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus que le sentiment de menace qui vient en quelque sorte nous montrer la réalité. Et ça s'auto-justifie. Et il n'y a plus de raison pour laquelle on pourrait lâcher ça. C'est trop dangereux pour nous. C'est trop dangereux pour nous de faire attention aux bourgeons sur les arbres. C'est trop dangereux pour nous de faire attention à autre chose que ce qui nous met en danger. Donc, se familiariser avec l'entraînement aux perceptions sensorielles est un devoir à la fois parce qu'on a des modes de vie qui nous éloignent de notre sensorialité, mais également, un peu comme quand on fait de la musculation, va nous permettre justement de renforcer notre aptitude à la créativité et à l'ouverture, notamment au moment où on va avoir tendance à se focaliser sur soi. Dans les programmes que j'ai eu l'occasion de faire pour les personnes atteintes de cancer ou de maladies graves et évolutives, je me souviens que la collègue et psychologue avec laquelle je travaillais insistait énormément sur cette phase autour du plaisir et de la joie, parce qu'elle n'allait pas de soi. Et des fois, on a tendance à, quand on accompagne comme ça des personnes, notre première intention peut être de dire, mais on va d'abord travailler l'acceptation, comme ça on sera capable de faire face à la douleur. Mais en fait, c'est pas possible. On ne peut pas avoir de l'acceptation si on ne s'est pas nourri sensoriellement, si on n'a pas reconnecté un peu avec le plaisir, si on n'a pas un peu reconnecté avec la joie. Et vous voyez qu'ici, intentionnellement, je fais le lien avec la notion de plaisir, avec la joie, parce que des fois, dans certaines présentations, on les met un peu en opposition. Mais en fait, si c'est juste chercher le plaisir pour le plaisir, évidemment, ça ne va pas aller loin. Mais le plaisir sensoriel, s'il est conduit en pleine conscience, c'est-à-dire avec une forme de lâcher prise, il va pouvoir justement nourrir ce sentiment de plénitude qu'on évoquait tout à l'heure, et il sera beaucoup moins conditionné, il ne sera pas perdu. Au contraire, si le plaisir est recherché juste dans une perspective hédoniste immédiate de satisfaction, à ce moment-là, on tombe dans un autre schéma qui est celui du schéma de pulsion, où on se retrouve un peu dans un processus de stress, où on croit qu'on va vite avoir du plaisir au cas où plus tard on en soit privé. Et ce sentiment-là, par contre, lui, il va conduire à notre appauvrissement. Donc, même si on parle de plaisir ici, il s'agit de garder les caractéristiques de la pleine conscience et que ce soit un plaisir qui va nourrir ce sentiment de joie, joie qui, ici, encore une fois, vient nourrir cette expérience de plénitude. Quand on en est là, un autre point qui m'apparaît important, quel que soit notre niveau, bien sûr, tout ça peut être fait, on peut lire la vie de philosophes extraordinaires ou de saints, de yogis qui ont maîtrisé ces aspects-là de façon extraordinaire, mais nous-mêmes, à notre petit niveau, c'est tout à fait possible de pouvoir éprouver ça. Moi, des fois, j'ai vu des personnes, même en 8 semaines de programme, qui restauraient leur aptitude à la joie, et c'est quelque chose qui peut être vraiment très puissant. Et un autre point qui va être important, une fois qu'on s'est connecté au sens, c'est se connecter aux autres. La capacité de pouvoir choisir à quoi on se relie dans le monde, quelles sont les actions qui sont faites par les êtres humains auxquels on arrive à se connecter en se réjouissant de ce qui est fait. C'est quelque chose qui est très important. On peut voir exactement l'inverse actuellement quand, par exemple, on écoute les informations. On va voir que ça peut générer de la colère, de la frustration. On va voir que ça peut générer une forme d'angoisse généralisée et une perte de confiance dans l'espèce humaine. Mais à l'inverse, quand notre attention s'oriente délibérément sur des choses positives qui sont faites, eh bien à ce moment-là, il y a aussi l'inverse qui se crée. Et le fait de pouvoir nourrir en nous cette capacité de pouvoir avoir confiance dans le genre humain, dans cette humanité commune qu'on partage malgré tout. Donc la personne qui vous parle, moi-même, c'est quelque chose qui n'a pas été automatique. personnel, je sais que j'ai, comme beaucoup d'entre nous, une capacité plutôt à me focaliser sur le verre à moitié vide. Et ça a été vraiment un entraînement de yoga, comme de la même façon qu'on assouplit le corps, arriver justement à réorienter mon attention sur des choses qui vont bien chez une personne ou des choses positives qui sont faites et qui me plaisent, que j'ai envie de nourrir, était vraiment une difficulté pour moi. J'avais plutôt tendance à focaliser mon attention facilement sur ce qui nourrissait ma peur. Mais au fond, ça ne fait qu'entretenir un système d'une certaine manière. Les personnes qui sont un peu cyniques disent vous vivez dans un monde de oui-oui, vous vivez dans un monde naïf. Mais en fait, en vivant dans un monde anxieux, on agit peu au final. Parce que un système motivé par la peur ne fait lui-même que s'engendrer lui-même. Donc, on ne dit pas qu'il faut tomber dans un système naïf, mais arriver à choisir ce qui les actes qui nous reconnectent à nous-mêmes, qui nous reconnectent à des parties de l'humanité qui sont positifs, qui sont nourrissants, avec des valeurs autour de l'altruisme. On sait aujourd'hui que ça fait du bien, non seulement socialement, mais également au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui est aussi extrêmement nourrissant. Tous les efforts qui sont faits dans les tissus associatifs pour faire des choses positives ou faire des choses ensemble en sont le témoin. Mais déjà, à travers notre capacité à la méditation, arriver à calibrer notre attention pour pouvoir se reconnecter à des choses positives qui sont faites. Il y a par exemple une personne au CHU de Bordeaux, médecin, qui, à chaque fois qu'elle entend que les soignants du CHU ont pris en charge une personne en grande difficulté, qu'elle soit démunie socialement ou dans un état de santé grave, c'est quelque chose qui lui fait vraiment du bien. Et par exemple, dans certains services auxquels ils se sont familiarisés un peu avec la pleine conscience, dans les services de soins, on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, pour que ça aille mieux, bien entendu. Mais à force de se focaliser sur ce qui ne va pas, ça devient une forme d'habitude. Et quelque chose qui génère justement ce sentiment de menace. Et il y a quelqu'un dans le service qui a proposé qu'à chaque réunion, certes, on parle des problèmes qu'il y a, mais on évoque aussi, à plusieurs reprises, les points qui ont été positifs et qui ont bien fonctionné. Et c'est nécessaire pour que justement des équipes de soins qui sont confrontées à la maladie, à la souffrance et à la mort, puissent avoir justement de quoi nourrir ce sentiment de cohérence, ce sentiment de joie pour pouvoir continuer leur travail des fois dans des conditions difficiles. Donc choisir ce à quoi se relier, que ce soit chez les autres ou dans le monde, va être aussi un point important pour pouvoir aller au-delà de nos peurs. Et enfin, il y a un dernier point qui est parfois proposé dans les programmes de pleine conscience, notamment ceux qui sont basés sur la compassion, mais on n'a pas le temps de faire vraiment un programme entier sur la joie. C'est la capacité de pouvoir aller au-delà de notre envie. Souvent, derrière la peur, il y a un sentiment d'envie, de comparaison, de se sentir pas assez ou de se sentir trop. Et la pratique de la joie, arriver à se réjouir de ce qui peut arriver à autrui, de positif, peut nous-mêmes, dans nos communications, être quelque chose qui est très restauratif. Et dans la grande famille de ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie positive, j'ai noté que ce genre d'attitude était aussi développé. Plutôt que de rester silencieux quand quelqu'un autour de nous fait quelque chose de positif, le dire, l'exprimer, c'est quelque chose aussi qui a été mis en avant comme étant un facteur de résilience et un facteur de cohésion au niveau de la communication qui était important. Donc, il ne s'agit pas ici de vous mettre dans un monde qui soit un monde béat, où tout serait que tout rose et tout joyeux. De toute façon, le monde est là pour chaque jour nous rappeler que ce n'est pas le cas. Mais prendre le parti de la joie, prendre le parti de la gratitude, prendre le parti de l'appréciation, va être un exercice très puissant qui va nous permettre justement de ne pas baisser les bras, ni de se laisser dicter la réalité par la voix de la peur. Donc, je vous souhaite encore une fois une très bonne pratique autour de la joie. et pour celles et ceux qui vont nous rejoindre pour la retraite silencieuse du mois d'avril 2024. À très bientôt.